Natal. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. À la clôture jeudi 3 avril dernier de sa convention des 4 jours destinés à unir l'opposition, la plateforme Sauvons la RDC a adopté 60 de résolutions qui visent, selon ses auteurs, la refondation d'un état des droits réellement démocratique. Parmi ces résolutions, on note l'organisation en mai 2015 d'un dialogue inclusif, la révision de la loi électorale durant la session parlementaire en cours, la réqualification du bureau de la CENI, l'élaboration de la cartographie électorale au deuxième semestre de l'année, l'organisation d'élections locales, municipales, urbaines et provinciales combinées et au suffrage universel direct. Comment commentez-vous ces recommandations de l'opposition? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Berry Franklin Luchaka, Rose Nianfoura réalise cette émission mise en onde par Mimi Kindou. Pierrot et la Mégie vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Nous avons invité pour vous le professeur Jean-Pierre Mbouébouakalala, qui est analyste politique fidèle. Auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs.
Plusieurs recommandations à l'issue de la convention Sauvons la RDC, organisée bien sûr par cette frange de l'opposition, souhaitant beaucoup de préalables avant d'aller aux élections, aux prochaines élections. Parmi ces préalables, nous avons retenu d'abord l'exigence d'un dialogue inclusif d'ici le mois de mai 2014, la révision de la loi électorale, la réqualification du bureau de la CENI, l'audit du fichier électoral, l'élaboration de la cartographie des élections. Et contrairement aux souhaits de la majorité présidentielle, cette frange de l'opposition recommande, exige les élections combinées, locales, municipales, urbaines et provinciales, et au suffrage universel direct, parce que au niveau de la majorité, on a soutenu l'idée des élections de députés provinciaux au suffrage indirect. Voilà autant de recommandations à l'issue de cette convention. Quel regard portez-vous sur ces recommandations? Nous avons Omar ici à Kinshasa, Espoir à Kananga. On va vous accorder et la parole après qu'on ait eu quelques minutes avec notre invité, professeur Jean-Pierre Mbouébouakalala. Bonjour et merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation.
Bonjour, merci.
Et vous, d'abord, d'emblée, quelle lecture portez-vous de cette démarche de l'opposition? D'abord, le fait qu'on ait cette convention destinée à unir l'opposition.
Bon, de toutes les façons, vous savez, dans notre pays, l'opposition a toujours fonctionné un peu de manière disparate. Il y a eu des moments où l'opposition a fait des efforts de s'entendre, de travailler ensemble. Mais souvent, il y a des périodes où ils travaillent chacun dans son coin, ce qui n'aide pas le pays, parce que l'opposition est là pour contribuer à la bonne marche de la démocratie. Et donc, dans ce sens-là, chaque fois que l'opposition peut s'organiser, chaque fois que l'opposition peut se mettre ensemble, c'est toujours quelque chose de positif. Vous savez, il n'y a pas de démocratie sans opposition. Et donc, la majorité a intérêt de fonctionner avec une opposition qui peut l'aider, qui peut contribuer utilement, qui peut discuter avec la majorité de manière responsable. Et donc, je crois que, personnellement, j'encourage que l'opposition, n'est-ce pas, travaille de manière ordonnée, de manière concertée. Et donc, c'est positif de manière générale.
Mais on a vu, l'année passée, il y a eu ces concertations nationales qui se sont déroulées ici à Kinshasa. Beaucoup de partis politiques ont participé, bien sûr. Il y a eu aussi d'autres partis politiques de l'opposition qui n'ont pas participé à ces concertations nationales. Et ces partis souhaitent, dans la configuration actuelle du climat politique, qu'on ait encore une autre rencontre inclusive, comme ils appellent ça, qui puisse permettre à ce que tout le monde parle le même langage. Nous sommes en 2014, d'ici là ce sont les élections en 2016. Comment comprendre cette démarche?
Non, c'est toujours bien. Vous savez, nous sommes une jeune démocratie, et donc étant confrontée, la nation étant confrontée à des rébellions, à des désordres de toutes sortes, des phénomènes comme les Kuluna aussi, qui s'attaquent à l'existence même de l'État. Donc il y a beaucoup de défis, n'est-ce pas, auxquels les autorités politiques congolaises sont confrontées. Et personnellement, je pense que chaque fois que ces autorités peuvent écouter les gens, chaque fois qu'elles peuvent organiser un cadre pour dialoguer avec les opposants, avec la société civile, c'est toujours une avancée positive. Hein, donc, dans un pays comme le nôtre, il est positif de voir que les responsables installe la culture des concertations, la culture des dialogues, qu'on ne se traite pas comme des ennemis. Hein, parfois on est des adversaires politiques, mais on n'est pas ennemis. Et donc que l'on parle ensemble, qu'on discute, parce que les dialogues résout bon nombre de choses.
Mais quand on regarde le revendication, si on peut dire, de cette coalition, souvent la RDC, il y a par exemple en ce qui concerne les élections, ils souhaiteraient, contrairement à la position prise par la majorité, que les élections locales, surtout en ce qui concerne l'élection de députés provinciaux, la majorité a rejoint le président de la CENI qui avait proposé dans sa feuille de route que ces élections se déroulent par suffrage universel en direct, compte tenu des moyens. On ne peut pas élire aujourd'hui les députés provinciaux au suffrage direct plutôt, mais eux, ils pensent qu'il faut garder ces formats. Et la majorité, on se rappellera bien sûr la rencontre qui a eu lieu à Kingakati, ils ont levé l'option pour soutenir la position de la CENI. Les autres pensent que ça doit être au suffrage direct, les autres pensent indirect. Et si on n'arrive pas à harmoniser un point de vue dans de rencontres d'ici avant les élections, comment on peut alors envisager ces élections-là où les classes politiques y vont d'une manière divergente?
Non, mais vous savez, de manière générale, la réclamation de l'opposition est tout à fait fondée. Hein? Donc, dans une démocratie représentative, le peuple vote le représentant. Donc les représentants doivent être élus par l'ensemble de la population. C'est ça la démarche logique. Alors la démarche qui a été proposée par la CENI, c'est une démarche des circonstances, en disant nous avons des difficultés de respecter, n'est-ce pas, les calendriers, nous n'avons pas d'argent, alors nous suggérons qu'on le fasse de manière indirecte. Alors, il y a des gens qui estiment qu'il faut le faire au suffrage universel, je ne crois pas que c'est un problème, parce que le suffrage universel est l'idéal. Et les autres formules sont des formules de facilité, des formules de circonstances. Lorsqu'on ne peut pas le faire au suffrage universel, nous pouvons aussi prendre que le représentant puisse poser des actes. Vous savez, en 1960... le président Kasavubu n'a pas été élu au suffrage universel direct. Il a été élu au niveau du Parlement. Donc c'est un suffrage indirect. Donc par rapport à ce contexte-là, bon, ça a fonctionné. Parce que les représentants du peuple ont le mandat de poser des actes au nom du peuple. Maintenant, nous avons dans la constitution actuelle, n'est-ce pas, décidé que ça soit fait au suffrage universel
direct.
Que les députés provinciaux soient élus au suffrage universel direct. Parce que c'est le premier représentant du peuple. Ce qui est logique. Et donc, si maintenant il y a l'opposition qui résiste, moi je ne dirais pas qu'il faut la diaboliser, c'est normal. Parce que c'est ça la procédure normale. Par contre, les autres suggestions, ce sont les suggestions qui tiennent compte de nos réalités. Mais pourquoi dans notre pays on ne peut pas, n'est-ce pas, s'attendre à ce que le gouvernement cherche à prêter les moyens pour que les élections se fassent dans les bonnes conditions? Hein, pourquoi chaque fois on doit compter sur la communauté internationale, chaque fois on doit compter sur la bonne foi de tel ou tel? Hein, normalement, nous devons apprendre qu'il y a des échéances électorales et chaque fois quand on élabore les budgets, l'année où il y a les élections,
on doit tenir compte de ça.
Voilà, qu'on intègre ça et qu'on ne mette pas, n'est-ce pas, la CENI dans une position où elle doit tripoter, doit essayer de voir comment réussir à ce que les élections aient lieu. Vous voyez, parce que la proposition, c'est ça. C'est la conséquence du fait qu'il n'y a pas les moyens. Alors, on est en train de voir comment on peut quand même faire voter les gens avec les difficultés qu'ils ont.
Voilà. Hein?
Donc l'idéal, c'est que le gouvernement mobilise les moyens, mette ces moyens à la disposition de l'institution technique chargée d'organiser les élections, mmh, et qu'on ne puisse pas chaque fois traiter cette institution comme complice de tel, ouais, ou tel. Mmh. Voilà.
Nous avons Espoir qui est à Kananga, au Kassai occidental. Omar, ici à Kinshasa, Célestin à Kananga. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct dans cette émission, 081 890 6315.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15, ou par internet pa@radiookapi.net.
Espoir, vous êtes à Kananga, au Kassai occidental. Bonjour. Espoir, bonjour. On a perdu la ligne d'Espoir à Kananga. Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierre Lamégé, bonjour à l'invité.
Et vous avez suivi l'introduction avec le professeur, les préalables de cette autre frange de l'opposition. Quelle analyse vous faites de tout cela?
Merci beaucoup Pierrot. Du verbe par vous, Madjidjé. Je remercie également les professeurs de la pertinence dont il fait montrer qu'il l'analyse. Je salue comme tout le monde cette initiative qui dirait que demeure démocratie et fait respirer, n'est-ce pas, les poumons politiques de la RDC. Je pense aussi que le travail fait par l'opposition est très important dans la mesure où il est important que chaque parti politique puisse réfléchir sur le devenir de son pays. Mmh. Mais cependant, je pense que, en tant que chercheur et analyste, il y a lieu de critiquer certains faits. Notamment, on parle du dialogue inclusif. Je voudrais faire comprendre à l'opposition qu'elle doit cultiver d'abord le dialogue lui-même. Comment voulez-vous qu'on fasse un dialogue inclusif si au sein des partis politiques, le dialogue n'existe pas? Je vous donne quelques faits. Les idées de M. Martin Fayulu a chassé M. Serge Ouellou. Comment si, au niveau de votre parti, vous n'arrivez pas à dialoguer, vous voulez dialoguer avec les autres? Au niveau des facs, on a aujourd'hui combien de facs? 3 facs. Fac El Monidela, fac El Isanga Bonganga, fac El Fayulu. Quel exemple êtes-vous vis-à-vis de vos contradicteurs si vous n'arrivez pas vous-même à vous entendre? C'est déjà un faux débat. Ils doivent commencer par dialoguer eux-mêmes, être unis et aller affronter les autres. Et deux, on parle de la requalification du bureau. Moi, je pense que c'est un faux débat. Dans la mesure où, j'ai toujours dit, ce dont la RDC a besoin, ce n'est pas les hommes forts, mais plutôt les institutions fortes qui partent en France, qui organisent les élections. C'est les ministres de l'Intérieur. Le jour où on aura des institutions capables d'organiser, on n'aura pas besoin des hommes. Même si on faisait partie M. Maloumal, qui on mettrait pour le remplacer? Qui fera mieux? Créons plutôt des structures fortes qui puissent alimenter avec l'esprit de contrôle approprié. Parce que tous ceux qui sont à l'opposition, la plupart d'entre eux, ont déjà eu à travailler, nous connaissons leur sort. Au lieu d'attaquer ceux qui sont là, renforçons les mécanismes de contrôle et soyons éveillés. Mmh. Je voudrais enfin maintenant passer à mes propositions. Moi, je pense, Monsieur Pierrot et la Messie, ce qui fait que le travail de l'opposition ne puisse pas tenir au Congo, c'est que, un, elle n'est pas d'abord démocratique. Voilà au sein des partis politiques. Un parti politique est censé créer, appartenir à tout le monde. Mais les partis politiques congolais appartiennent à leurs leaders. Si au niveau de votre parti, vous n'êtes pas démocratique, comment voulez-vous enseigner la démocratie? Des deux, elle n'est pas unie. Si l'opposition sénégalaise a pu battre la majorité sénégalaise, c'est parce qu'elle a été unie. J'ai toujours dit, l'unité des moutons oblige les lions à dormir. Aussi longtemps que les moutons sont dispersés, les lions sont forts. Il y a autre chose. Nous remarquons que l'opposition ne travaille pas pour l'intérêt du Congolais. Il y a seulement quelques-uns, comme M. Étienne Tshisekedi. C'est ça l'un des vrais opposants. Et quelques autres. Mais les autres ne sont là que pour les intérêts de leur ventre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une véritable démocratie réelle? Ça passe premièrement par le respect des textes et par la majorité, et par l'opposition, et par le peuple que nous sommes. Mmh. De deux, il faut qu'on respecte la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir doit faire son travail. De trois, on doit contrôler ce qui dirige. Cela passe par la justice et par le Parlement. Et enfin, il faut que l'homme politique congolais soit mature, savoir ce qu'il fait. On ne peut pas prêcher la sainteté si lui-même on n'est pas saint. On ne peut pas prêcher la démocratie si soi-même on n'est pas démocratique. Il faut que ce moment, l'opérateur politique de l'opposition, pour que son travail tienne, puisse être mature.
Merci beaucoup, Omar. Au-delà de fonctionnement de partis politiques, on ne saura pas faire le débat autour des individus de comment ils gèrent leur parti politique. Ça ne sera pas possible de leur permettre aussi de pouvoir venir se défendre au même moment dans cette émission. Mais dis-moi, je retiens dans votre argumentaire, Omar, que ce qui est important, c'est de garder les institutions que nous avons, mais renforcer le mécanisme des contrôles. Et vous avez souhaité qu'au niveau de l'opposition, on ait d'abord le fonctionnement normal de la démocratie au sein des partis politiques de l'opposition. Comme ça, ils pourront être capables de pouvoir enseigner les autres. Merci beaucoup. Célestin, vous êtes à Kananga, au Kassai occidental. Bonjour. Célestin, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour également l'invité.
Vous avez suivi le mardi, le problème aujourd'hui c'est plus que l'opposition donne un exemple dans la capacité de s'unir, hein, et comme ça, ça ne va pas leur permettre de tenir quand ils font des propositions au niveau de la majorité.
Oui, merci. D'abord, je vous remercie tout d'abord pour m'avoir associé à l'émission d'aujourd'hui.
Mmh.
À mon avis, le grand problème sur lequel il faut parler dans l'opposition, ce n'est pas la proposition du calendrier électoral ni la modification de la Constitution comme il le pense. Il est moment de se mettre ensemble, discuter sur l'avenir du pays et surtout convaincre les esprits des autres opposants qui ne sont pas d'accord pour s'unir en vue d'atteindre l'objectif de manière efficace telle l'attend la population congolaise. Parce que ce qui fait leur force, ce n'est pas seulement la non-modification de la Constitution, mais plutôt l'union, comme on a toujours dit, l'union fait la force. Alors je voudrais poser une question à notre invité. En 2011, quand il y a eu les élections de députés nationaux au mode du suffrage universel direct, nous avons constaté que le droit du peuple n'avait pas été respecté. Donc, ceux qui représentent actuellement le peuple de l'Assemblée nationale, ne sont-ils pas ceux-là que nous avons nous-mêmes pu élire? Alors, lui pense qu'avec le mode du suffrage universel qu'on est en train de proposer actuellement à M. Le président de la CENI pour les députés provinciaux, est-ce que cela va être contraire à ce que nous avons connu en 2011 avec le même député de l'Assemblée nationale? C'est ça, c'est que j'avais comme question.
Merci. Merci beaucoup, Célestin. Le problème aujourd'hui, c'est les débats au niveau de l'opposition. C'est pas de savoir définir les calendriers électoraux, mais le grand problème pour vous, c'est que l'opposition arrive à s'unir pour voir comment faire face aux échéances qui vont venir. Et la question posée à notre invité, beaucoup de gens ont dénoncé en 2011 que les députés nationaux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne sont pas ceux qui ont été élus. Les gens ont parlé même des députés qui ont été nommés. Y a-t-il des différences si même les députés provinciaux sont élus par suffrage direct? Ça risque pas d'être la même chose que ceux qui étaient élus par suffrage direct. Merci beaucoup. Arsène, vous êtes à Kikwit dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tout le monde.
Il y a autant de préalables, hein. L'opposition pense qu'il faut requalifier le bureau de la CENI, il faut le suffrage direct pour les députés provinciaux, les autres élections, il faut un dialogue inclusif. Quand on écoute ces propositions qui ne viennent pas de toute l'opposition, bien sûr, ça il faudrait aussi signifier que c'est pas toute l'opposition, c'est la plateforme Sauvons la RDC. Alors dans ces conditions, comment vous envisagez l'avenir du processus électoral déjà à quelques années, si on peut dire ainsi?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que l'opposition actuellement a plusieurs reproches qu'on est en train de faire pour l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition ne sait pas s'organiser avec une seule tête, comme le disait quelqu'un qui se présente avec deux têtes, trois têtes, ça veut dire que c'est un monstre. Aujourd'hui, l'opposition, avec les propositions qu'ils sont en train de mettre, je ne crois pas qu'ils sauront faire force. Ils doivent être d'abord unis. Bon. En plus de ça, je veux voir les propositions qu'ils sont en train de faire. Les propositions sont pertinentes. Ils ont des bases sur lesquelles ils sont en train de faire toutes ces propositions. Mais moi, j'irai tout droit vers les deux points qui sont en train un peu de déranger. Il y a M. Malumalu, il y a le suffrage direct qui devient indirect.
Mm-hmm.
Bon, si je dois suivre le discours du président de la République à la sortie de la conférence qu'il a organisée, on dirait que c'était quelque chose déjà de prévu. Mais je tiens à une parole qu'il va proposer au niveau du Parlement pour qu'on en discute. Aujourd'hui, le débat est à l'extérieur du Parlement. Ce ne sont que des propositions. Mais le Parlement, comme il existe aujourd'hui, ce Parlement est déjà scindé en deux parties. Il y a l'opposition et il y a ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition se retrouvent déjà comme s'ils étaient en position de faiblesse. Mais la proposition finale, c'est au niveau de la population.
Mm-hmm.
C'est la population qui va juger. Aujourd'hui, le problème pour le suffrage indirect, s'il est posé par la majorité, c'est un problème de budget, c'est un problème d'argent. C'est pour ça qu'on dit, ben écoutez, nous allons au suffrage indirect. Pourquoi ne pas dire, ben écoutez, ceux qui vont chercher à devenir députés provinciaux, les députés provinciaux, qu'ils soient d'abord élus par le direct. Donc, il doit être d'abord élu comme municipal ou local, mm-hmm. et ensuite, il peut poser sa candidature dans la classe qui a été élue. Ça, c'est une des solutions que moi, je pense. Mm-hmm. Parce que là, on n'aura plus affaire à dire que, écoutez, celui-là qui est élu au niveau provincial a été élu indirectement. Il aurait déjà le mandat de la base, ce qui est le mandat direct. Puis après, son suppléant peut toujours le remplacer. Pour le cas de Malumalu, le cas de Malumalu est en quelque sorte un peu tardif. Tardif, pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment où on va changer le directoire de la CENI. Ce n'est pas le moment qu'on aille aux élections. Parce que si on craint la tricherie par Malumalu ou que c'est organisé d'avance, on va tricher, on va faire cela. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit penser à changer Malumalu. On doit plutôt établir des stratégies pour empêcher Malumalu qu'on est en train d'accuser de fraude, qu'on l'empêche de faire ces fraudes-là. Pour le dialogue, on n'en termine pas. Le dialogue est perpétuel, on doit toujours discuter.
Merci.
Voilà un peu mon avis.
Merci beaucoup, Arsène. Vous pensez, en ce qui concerne la réqualification du bureau de la CENI, c'est déjà tard parce que là, on court vers le temps. S'il faut d'abord revenir dans le débat autour de désigner le nouveau membre de la CENI, ça risque encore de prendre autant de temps. Alors, pour vous, le problème aujourd'hui, c'est d'abord avoir des stratégies qui puissent empêcher les bureaux de la CENI, si on pense qu'il peut tricher, de pouvoir y arriver. Mais le débat aujourd'hui autour du processus, il est plus à l'extérieur du Parlement qu'au Parlement, comme l'avait souhaité le chef de l'État. Merci beaucoup. Moïse, vous êtes à Komanda. Komanda, c'est en province orientale, Moïse.
Oui, c'est à province orientale, à quelques kilomètres de Bounia.
On vous écoute, Moïse. Vous avez suivi les uns et les autres. Oui, pour vous, comment vous appréciez cette démarche de l'opposition?
En fait, la démarche de l'opposition, Kadassan, il n'est pas du tout mauvaise. Mais ce que nous regrettons, c'est que les débats dans ces pays semblent ne pas être constructifs, monsieur le journaliste.
Mm-hmm.
Les politiques de ces pays semblent toujours discuter. Et ce qui est mal, c'est qu'ils discutent par rapport à leurs intérêts particuliers et individuels. Ils ne voient pas l'intérêt du peuple, l'intérêt de la population qui est la première bénéficiaire des ressources de ces pays. Avec, j'aimerais parler aussi de dire ceci au peuple. C'est que les buts, l'objectif principal des partis politiques, c'est la course au pouvoir. Et moi, je demeure vraiment sceptique. Je suis pas optique quand on sait que l'opposition va finir un jour dans ces pays. Parce que on a parlé de sauver le Congo. Il y a une plateforme. Il y a de l'autre côté. Il y a la plateforme initiée par les présidents du Sénat.
L'opposition républicaine, oui.
Voilà, tout ça, c'est des divisions entre l'opposition. Et on voit que les gens parlent de manière dispersée. Chacun a sa vision, chacun a sa politique par rapport à ce que la majorité est en train de faire.
Mm-hmm.
Vous comprenez, monsieur le journaliste?
Voilà, merci beaucoup, Moïse. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez l'impression que le débat au niveau de l'espace politique n'est pas constructif. C'est plus un débat qui tourne autour des intérêts, plutôt
ouais,
que des intérêts individuels qui est des intérêts de la population. Et puis, vous ne croyez pas tellement à l'unité de l'opposition, sauvant la RDC, l'opposition républicaine. On parle même de l'opposition proche du pouvoir, de consensuel. Voilà, dans cette configuration, ça va être difficile. Mais là, Arsène a beaucoup insisté parce que c'est depuis 2006 qu'on attend le porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, on est en 2014, ça ne parvient pas à marcher et dans ces conditions, c'est très difficile. Adrien, on va vous écouter. Joseph, vous allez garder la ligne. Il est temps que le professeur Jean-Pierre Mbouéboua puisse réagir. On va revenir à vous, Joseph. Mais en attendant, on écoute Adrien qui est à Kananga, au Kassa Occidental. Bonjour, Adrien.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
Et c'est dans cette configuration, on se rend compte que l'opposition a du mal à parler le même langage. Et cela veut dire aussi que ça a une incidence sur le résultat attendu par rapport aux revendications des uns et des autres, face bien sûr à la majorité.
Oui, merci Pierrot. D'entrée de jeu, je m'en vais saluer d'abord l'initiative de l'opposition. Mais Pierrot, ce que vous devez savoir est que c'est vraiment une mission impossible, hein.
pour que l'opposition parvienne à parler un même langage.
Mm-hmm.
Pourquoi ? Parce que nous savons qu'il y a la vraie opposition, il y a aussi l'opposition qui est aussi fabriquée pour venir déranger, donc brûler la tarte. Donc par rapport à cela, ça sera vraiment difficile.
Mm-hmm.
Mais donc ce qui m'intéresse, c'est de voir cette opposition-là hein, qui s'est réunie, qui a essayé un peu de nous donner de la matière à, donc, à réflexion. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez le cas de la CENI, je pense, à mon humble avis, ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas être magicien pour comprendre qu'il y a déjà un mauvais jeu qui se prépare de ce côté-là. Mon ami Arsène a dit, c'est déjà tard. Non, moi, je me dis, il n'est pas tard pour mieux faire. Lorsqu'on sent qu'il y a une situation pas du tout bonne, mais autant mieux sauver déjà le meuble au lieu d'attendre que la maison, donc, que la maison brûle.
Mm-hmm.
Parce qu'en 2011, lorsque on disait que nous sommes en course, il y a le temps, ainsi de suite, mais on a fait des élections contestées par tout le monde. Est-ce qu'il faut continuer toujours à faire des histoires comme ça, ou bien il faut prendre du temps pour faire une histoire qui sera acceptable par tous? Là, c'est de un. Et puis, deuxièmement, lorsque vous prenez les recommandations de l'opposition, vous allez vous rendre compte, et je me pose la question, pourquoi l'histoire de ce pays n'enseigne-t-elle pas nos politiciens, et surtout ceux de la majorité? Et en 2011, on a révisé la Constitution, donc on a révisé l'article 71, et nous tous, nous avions regretté l'essor de ça. Et au jour d'aujourd'hui, on veut aussi tenter pour changer les critères, donc qu'on quitte le suffrage universel direct au suffrage universel indirect avec le semblant de la démocratie. Je pense que ce n'est pas le moment de songer à ce changement-là. Il faut que la population congolaise, que la classe politique congolaise devienne suffisamment mature pour qu'on puisse penser à un tel changement. Et puis pour finir, Pierrot,
mm-hmm.
moi je pense l'opposition congolaise qui s'est réunie a prouvé de quoi elle est capable. Donc en face, nous attendons maintenant que la majorité revienne au bon sens pour qu'elle se rende compte que le pays nous appartient tous, ça ne sert à rien. Donc, de créer des petits problèmes, parce qu'après, après demain, ce ne sont pas ces gens-là qui seront encore
au courant. Oui, mais Adrien,
dans une situation chaotique,
voilà.
Adrien,
s'il vous plaît, si vous êtes encore là, vous souhaitez que
oui.
de voir les propositions de l'opposition, que la majorité revienne. Mais si l'opposition s'est réunie à Fatima, cette partie de l'opposition, c'est parce qu'il y a eu d'abord la majorité qui s'est réunie à Kingakati, les autres se sont réunis pour apporter des réponses. Alors, si nous allons de réunions parallèles, les uns se réunissent au centre Nganda, les autres se réunissent à Kingakati, les autres se réunissent à Fatima, et les temps passent et qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble pour avoir un point de vue commun, vous ne voyez pas que ça sera difficile de pouvoir construire la paix autour de prochaines élections, Adrien?
Tout à fait, vous avez raison. C'est là que la volonté politique est obligée vraiment d'intervenir, parce que s'il y a une moindre volonté politique, je pense que votre question, c'est une question intéressante. Mais si la volonté politique intervient, vous allez vous rendre compte que le dialogue prôné, donc
qui figure parmi
les recommandations
voilà.
de l'opposition.
Merci beaucoup Adrien. Je retiens qu'il faut vraiment l'intervention de la volonté politique, que ce soit au niveau, que ce soit dans l'opposition tout comme dans la majorité, pour arriver à harmoniser les points de vue avant d'aller aux prochaines échéances. Merci beaucoup. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Professeur Jean-Pierre Mbobo-Kalala, vous avez suivi nos auditeurs, mais il se dégage dans les points de vue de nos auditeurs. D'abord, une inquiétude par rapport à la capacité de l'opposition de pouvoir s'unir. C'est vrai aussi, les gens sont inquiets parce qu'on sait depuis 2006 qu'on attend toujours le porte-parole de l'opposition. On sait comment ça fonctionnait jusqu'à ce moment. On a eu beaucoup de débats autour de cette question. D'abord, cette difficulté au niveau de l'opposition de parler le même langage, ça pose un problème. Mais il y a notre ami de Kananga qui a dit... quand on a élu les députés en 2006, les députés nationaux par suffrage, on sait comment ils ont été élus, on a dénoncé qu'ils ont été nommés, ça n'a pas marché. Mais est-ce que le fait qu'on puisse élire les gens par direct ou indirect, c'est là donner un certain crédit au processus électoral? Voilà autant de points de vue de nos auditeurs.
Bon, je crois que d'abord, les élections, lorsqu'elles sont organisées au suffrage universel direct, elles sont compliquées. Mmh. Hein? Donc c'est difficile de manipuler les gens. Hein? Vous savez, pour se faire élire député, c'est pas facile. Aller vers les gens, faire la campagne, mmh. hein? Sensibiliser toute la population, obtenir que les gens votent. Ce n'est pas évident. Et donc les gens qui sont élus au suffrage universel ont une grande légitimité par rapport à cela. Alors, changer, disons, faire élire les gens au suffrage, disons, de manière indirecte. Hein, donc, je pense, nous avons eu des cas ici, dans notre pays, c'est les sénateurs.
Et les gouverneurs.
Et les gouverneurs.
On a vu donc, comment ça s'est déroulé.
Voilà, donc nous avons connu cette expérience-là qui a été un peu malheureuse. Hein. On a eu des gens s'enfermer, on a vu des gens aller avec l'argent. Hein, chacun achetant quelques députés provinciaux, ça fait des scandales. On a eu des cas au Bas-Congo, on a eu des cas ici à Kinshasa, l'élection de gouverneur. Donc nous savons que l'élection au suffrage indirect est beaucoup plus aisée pour les candidats. Hein, parce que vous traitez avec quelques individus. Ces quelques individus, vous pouvez négocier avec eux facilement. Donc dans les cas qui a été le nôtre, il y a eu beaucoup de corruption, hein, donc ce qui était malheureux, mais c'est aussi une expérience que nous avons expérimentée, que nous avons vécue, qui peut faire que la prochaine fois soit la bonne, que les gens tirent les leçons de ce que nous avons connu. C'était la première fois qu'on organisait ces élections-là au suffrage indirect depuis longtemps. Et donc dans ce sens-là, peut-être qu'il y a eu un peu de réflexe. Qui sont allés dans ce sens-là. Et bon, les députés provinciaux étaient libres de négocier, hein, avec les candidats, et on a vu que effectivement ceux qui avaient l'argent ont réussi à acheter des places, à se faire élire sénateur. Mmh. Hein, quand on regarde la configuration du Sénat aujourd'hui, ce sont les anciens acteurs politiques.
Oui.
Donc ce sont les gens qui avaient des moyens qui sont sénateurs, par exemple.
Et parce que même pour le gouverneur, on a vu de personnes qui n'ont pas été élues comme députés. Il a échoué comme député national, mais curieusement, il a été élu gouverneur.
Comme gouverneur, voilà. Donc là, c'est quand même aisé. Du point de vue des principes, c'est plus facile de se faire élire au suffrage indirect, où vous traitez avec quelques individus, que de se faire élire au suffrage universel direct avec toute la population, avec les caprices des Congolais. Vous savez que la population congolaise est de plus en plus difficile, hein, lorsqu'il s'agit des élections. Ils sont de plus en plus exigeants. Donc, lorsque les gens viennent, voilà, avec nos votes, ils deviennent députés, ils ont des moyens, ils sont riches, ainsi de suite, ça complique les élections. Donc, les gens ne votent plus simplement par rapport à l'efficacité. Ils votent en tenant compte des choses qui n'ont rien à voir, hein, sur l'efficacité des élus. Hein, donc ça, ce sont des problèmes qui peuvent arriver dans un pays qui est en train de se rechercher. Et donc c'est une culture qu'on met en place. Personnellement, je ne vois pas ça dramatique, mais je pense que c'est avec ces expériences-là que les élections qui viennent s'améliorent, ainsi de suite. Après quelques expériences, après quelques élections, je crois que nous allons améliorer notre mode. Hein. Vous savez, chaque peuple a sa culture, a sa mentalité. Et donc, on ne peut pas rêver que ce qui se passe dans tel autre pays, européen ou américain, ça va se passer chez nous. Chaque peuple a sa culture, a son contexte, ainsi de suite.
Mais il y a ces auditeurs qui sont très inquiets par rapport au débat interne au niveau de l'opposition. Quand même, on sait, quand on est parti à la conférence nationale souveraine, on se rappelle, on a vu quand même, on a fait l'expérience de l'unité de l'opposition. On a vu aussi beaucoup de têtes au niveau de l'opposition, ce qui fait qu'on a eu ceux qui étaient à la conférence avec leur pouvoir, ceux qui pouvaient être nommés par le maréchal, tous issus de l'opposition. élections, la même cartographie a tendance à se redessiner encore en ce moment. Vous avez l'opposition républicaine, vous avez le vrai dialogue, vous avez souvent la RDC et autant de porte-parole de l'opposition. Ces manques de débat interne au sein de l'opposition risquent aussi de fragiliser les démarches en face de la majorité.
Mais je crois que c'est ça aussi, c'est normal. Dans un pays comme le nôtre, il y a longtemps, on essaye de mettre en place une démocratie véritable. Et donc, dans ce sens-là, les gens ont la liberté de créer des associations, de créer des partis politiques, de prendre parole. Ça, c'est un bon signe par rapport à la démocratie dans notre pays. C'est un bon signe qu'on n'empêche pas les gens de dialoguer, qu'on n'empêche pas les gens de créer des partis politiques, qu'on n'empêche pas les gens de s'associer. Et donc, ça, c'est positif pour moi. Et je sais que au bout de tous ces désordres-là, il y aura, n'est-ce pas, une sagesse qui pourrait découler, n'est-ce pas, des échecs ou des frustrations que ces différentes tentatives d'opposition vont connaître. Mm-hmm. Donc à un moment, ils vont tirer un peu quelques leçons de sagesse. À un moment, ils pourront comprendre que si chacun y va de cette manière-là, il n'y aura pas de résultats palpables. Tout ça aussi sont des leçons. Vous savez, tous ces pays qui sont démocratiques sont passés par toutes sortes d'expériences. Et donc nous aussi, comme peuple, nous pouvons passer par ces expériences-là. Donc les dangers seraient de commencer à condamner. Mm-hmm. Donc voilà, de stigmatiser. Ça, ce serait dangereux. Mais tant que les gens essayent, c'est comme ça, donc ils vont découvrir. Ils vont voir si nous allons en désordre, nous perdrons toujours. Mm-hmm. Et donc, quand ils vont constater qu'ils perdront toujours chaque fois que chacun ira avec son idée, sans pouvoir mettre la sagesse à l'affaire, sans pouvoir s'unir, à un moment, ils vont tirer les leçons. Mais pour le moment, je crois qu'il faut les laisser. Mmh. Ils expérimentent, non? C'est ça la liberté, hein? La liberté de créer, la liberté. Et puis vous savez aussi le fait que on milite dans l'opposition. C'est aussi une des caractéristiques, hein? C'est-à-dire que on n'est pas discipliné. Chacun décide comme il veut, chacun fait. Par contre, ceux qui sont déjà du côté de la majorité dépendent des chefs de parti. Il y a déjà la discipline, hein? Donc là, l'ordre est plus facile à assurer que dans l'opposition, il n'y a rien à perdre. Mm-hmm. Quand quelqu'un, par exemple, boude ou quand quelqu'un dit quelque chose contre l'autre, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Demain, ils vont encore se réconcilier. Et donc, tout ça, ça fait que nous vivons des choses qui sont liées aussi à toutes ces frustrations. Surtout que dans l'opposition, ils n'ont pas de moyens financiers. Mm-hmm. Vous savez, les problèmes de financement des partis politiques, c'est un problème sérieux. Tant que les partis politiques n'ont pas de moyens financiers, nous vivrons encore des choses liées qui sont la conséquence de la misère, n'est-ce pas? Et donc, dans la marche d'un pays, dans l'histoire d'un peuple, ce sont des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut encourager et les aider, les encadrer. Par exemple, les sessions de renforcement des capacités qu'on organise en faveur des parlementaires, etc. Pourquoi on ne le fait pas aussi en faveur de l'opposition? Il faut aider l'opposition, les partenaires, les ONG, ils doivent aider.
Voilà. Nous allons écouter Joseph qui est à Lubumbashi, Michel qui est à Matadi. Nous revenons, je rappelle encore, sur la convention de la plateforme de l'opposition dénommée Sauvons la RDC qui a clôturé sa convention à Kinshasa le jeudi 3 avril dernier. Plusieurs recommandations avant d'aller aux élections. Nous avons essayé de prendre quelques recommandations comme la nécessité d'un dialogue inclusif d'ici le mois de mai 2014, la révision de la loi électorale, la réqualification du bureau de la CENI, l'élaboration de la cartographie électorale, mais aussi l'exigence des élections des députés provinciaux par suffrage universel direct. Voilà, que pensez-vous de toutes ces propositions? Comment y arriver? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Joseph, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour. Joseph, bonjour. Joseph, vous êtes avec nous. Bonjour. Joseph, apparemment, il est distrait. On va écouter Michel, qui est à Matadi, dans la province du Bas-Congo. Michel, bonjour.
Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste.
Non, on vous écoute, Michel. Que pensez-vous de toutes ces recommandations de l'opposition?
Ah oui, ils sont à saluer, dans la mesure où toutes les revendications sont bonnes. Mais moi, je voulais ajouter une chose. Vous savez, hier, j'ai suivi M. Atondou à la RTNT. Donc, on sent déjà que la majorité a une position. Vous savez, non, les pouvoirs en place profitent de la faiblesse de l'opposition. Et maintenant que l'opposition, je ne sais pas jusqu'à ce niveau, elle n'arrive pas à pousser l'esprit des lois pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions changer l'alternance. Parce que la plus grande force que l'opposition a, c'est le peuple. Mais elle-même, l'opposition, ne comprend pas. Vous savez, lorsque j'ai suivi M. Atondou, j'ai compris une chose, que la position de la majorité est là. La constitution sera révisée. Et déjà, avec tous les calculs que j'ai faits, nous pouvons avoir le gouvernement de cohésion nationale vers le mois de juin ou juillet. Et lorsque nous l'aurons, ce gouvernement viendra seulement pour donner encore la force au pouvoir de Kabila. Et si on changeait la constitution, on donnera encore 3 ans à Joseph Kabila. Et lorsque nous allons arriver à ces 3 ans, Joseph Kabila se dira, la nouvelle constitution, on l'a conçue pendant que moi je suis là. Ce qui veut dire, je peux encore participer aux échéances qui viendront. Dans ce cas, nous donnerons à Kabila d'aller jusqu'en 2021. C'est ça que l'opposition ne comprend pas. Mais nous qui ne sommes pas dans la politique, nous comprenons. Mais comment se fait-il que les gens qui nous parlent français, les gens qui s'habillent bien, ne comprennent pas ça? Je vais vous donner un exemple. Notre opposition peut se faire guider avec ce qui s'est passé au Sénégal. Macky Sall a changé la tendance du même président qui est en place, de Wade. Pourquoi? Macky Sall a compris, c'est d'abord l'unité. Dans la division, on ne peut rien faire, malgré ce qu'on peut dire. Nous ne pouvons rien faire dans la division. Mais lorsque nous on est ensemble, nous allons changer des choses. J'ajoute un autre exemple. Vous savez, lors de la propagande ici en 2011, M. Kamere est venu ici à Matadi. Vous savez pour que les Matadiens puissent l'écouter. Vous savez la première question qu'ils l'ont demandé. On lui demande, vous êtes venu au nom de qui? Et Kamere avait dit tout haut que je suis venu au nom de Tshisekedi. Et la population a écouté. Moi je crois, mettons d'abord ce qui vous divise là à part. Choisissez d'abord un leader. Je ne dis pas que ça soit Tshisekedi. Il veut être voté par consensus. Vous savez, lorsqu'on a un leader, si Macky Sall a remporté, parce qu'il s'est senti leader de l'opposition, comment nous pouvons voir beaucoup de leaders? On ne sait pas, celui-là, parce que nous avons des leaders de l'opposition qui mangent avec les diables. Vous les voyez le soir avec les diables, et la journée, ils viennent parler au nom du peuple. Et on ne comprend pas, toute branche de l'opposition parle au nom du peuple. Et on se dit, quel est ce peuple que vous aimez parler, vous ne voulez pas vous unir? Moi, je crois que ça, notre opposition doit vraiment s'y atteler. Parce que sinon, nous allons reculer la démocratie, sinon, nous allons faire en marche la dictature, et ça va entraîner encore, dédommager tous ces acquis que nous avons cherchés depuis longtemps.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Michel. La faiblesse de l'opposition, c'est la force du pouvoir en place. Vous avez déjà tous les calculs, et vous êtes désolé qu'au niveau de l'opposition, on ne comprenne pas les calculs que vous faites pour voir que la majorité voudrait bien tout modifier pour consolider son pouvoir. Et vous appelez l'opposition vraiment à l'unité, quelle que soit la personne qui doit être choisie par consensus, qu'il soit vraiment uni. Et toutes leurs démarches peuvent réussir. Merci beaucoup, Michel. Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Pierrot, bonjour aux professeurs et à tous ceux qui ont participé. Félicitations. Merci pour la parole.
Et pour vous, est-ce qu'il est possible que voir l'opposition congolaise est unie autour d'une même cause pour arriver à proposer vraiment la véritable alternance à la majorité?
Oui, c'est possible si les objectifs ou la mission première est uniforme. Or, la mission première et les objectifs ne sont pas uniformes parce qu'il y a trop d'infiltrés. Vous savez que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, le Congolais n'a rien profité des actions des hommes politiques. C'est eux qui ont conduit le Congo de 60 jusqu'à aujourd'hui à ce niveau. Ils ne traitent que sur le mandat du président, la forme de l'État, il ne traite que sur ça. Mandat, forme, type d'élection, et ce qui est encore grave, Je félicite M. Joseph Kabila, le président de la République, qui a reconnu qu'il y avait tricherie. Donc, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on tourne sur ça, on abrutit le peuple et on l'affaiblit de mille et une manières. Il ne progresse pas. Il n'avance pas. Je suis heureux d'avoir entendu de la bouche du professeur citer le nom du président Joseph Kassaboufou. Vous saurez qu'il était l'auteur du coup d'État qu'il avait renversé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de respect de la règle établie.
Mmh.
C'était Tshombe qui avait gagné les élections, son parti. Et il prend celui qui n'a pas gagné, il met comme premier ministre. Il part au Parlement, réuni avec le Sénat. À deux reprises, on a rejeté ce qu'il avait fait. Et pour ne pas attendre le pire, Mobutu a pris le pouvoir. C'était la faute du président. C'était la faute de cette majorité-là. Aujourd'hui, la majorité nous présente quoi ? Le bonheur ou la misère ? Ou la centrafricanisation de la RDC ? C'est ça le problème.
Mmh. Voilà, docteur Richard, c'est que vous êtes désolé parce que vous vous rendez compte que les hommes politiques, depuis 1960, tous leurs débats, toutes les conventions, tout ce qui s'est fait au niveau de la classe politique, ça ne tourne pas autour des vrais problèmes de la population, mais c'est plus comment consolider son pouvoir, comment l'acquérir et comment l'exercer.
Comment les garder pendant longtemps Et puis aujourd'hui, M. Malomalou sait que les choses vomies, on ne le reprend pas. Il a été vomi. Il doit respecter la Bible qu'il touche, lui.
Voilà.
Il doit le respecter.
Il y a même au niveau de l'opposition, on sait qu'il y a eu aussi l'opposition qui a initié une pétition pour pouvoir faire partir M. Malomalou de la CENI. C'est que la démarche qui n'a pas été posée par les autres membres de l'opposition. Mais voilà, si je retiens, vous avez rejoint d'ailleurs notre ami Moïse qui était à Comanda, qui a dit tout le débat au niveau de la classe politique aujourd'hui en RDC tourne autour des intérêts du pouvoir, mais c'est pas la préoccupation vraiment de besoin de la population. Merci beaucoup. Docteur Bintou, vous êtes à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Bonjour.
Bonjour, M. Perrault. Bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour à notre invité.
Et quand on regarde aujourd'hui la démarche de cette partie de l'opposition pour voir comment se mettre autour de la table, discuter, avoir une vision commune avant d'aller aux élections, les autres personnes qui pensent qu'on peut continuer ainsi, et dans tout ça, Dr Richard dit, il n'y a pas les débats autour des besoins réels de la population. Et comment, pour vous, est-ce que vous pouvez proposer à la classe politique, qu'elle soit de la majorité ou de l'opposition, pour s'en sortir?
Merci. Le premier problème, c'est que je m'adresse à la majorité. La majorité doit éviter de distraire le président Kabila et de ramener le pays dans de nouvelles crises inutiles qui sont évitables. Car à ce moment ici, organiser les élections provinciales au suffrage indirect serait donner la caution à la tricherie inutile. Et s'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour organiser les élections au suffrage indirect, ils auront seulement l'argent pour organiser les référendums. Ça, ce sont des alibis inutiles. Donc, l'argent existe dans ce pays. Ce n'est pas un problème d'argent. S'ils disent que c'est un problème d'argent, c'est un faux problème. Il faut que les élections soient organisées, les élections provinciales soient organisées de manière directe pour que la population puisse choisir ses propres dirigeants et que la Constitution soit respectée. Puisque la même majorité, rappelez-vous que l'histoire doit nous renseigner dans ce pays que ce sont les mêmes personnes qui sont autour de Joseph Kabila aujourd'hui qui veulent l'amener à la tombe, qui ont encore conduit Mobutu à la tombe hier, et ils l'ont quitté pour aller constituer une nouvelle majorité. Qui vous dit que demain après Kabila, ils ne seront pas avec celui qui viendra après Kabila? Donc nous invitons le président Kabila à ne pas se distraire, de terminer son mandat, de partir et de laisser la chance à la RDC pour continuer. Deuxième problème, quant à l'opposition, M. Pierrot, regardez dans ce pays, est-ce que dans quel pays au monde vous avez déjà vu 10 000 têtes qui dirigent l'opposition? Il peut pas y avoir 10 000 leaders dans un pays. Il n'y a qu'un seul leader dans ce pays. Donc, si vous parlez aujourd'hui des États-Unis, c'est parce que George Washington s'est mis debout et tout le monde l'a suivi. C'est pourquoi les États-Unis sont les États-Unis. Mm-hmm. Quand on parle de la France, on voit De Gaulle. Et quand on parle de la RDC, on voit Tshisekedi. Pourquoi on doit encore chercher d'autres leaders pendant qu'il y a un qu'on peut soutenir qui peut amener le pays à relever le pays demain? Donc, tout ça, c'est de la distraction inutile. Les gens doivent savoir pourquoi ils s'engagent en politique. S'ils ont besoin d'argent, ils n'ont qu'à aller faire le commerce. Le commerce existe, ils peuvent faire des commerces pour avoir l'argent. Ce n'est pas en politique qu'on vient chercher l'argent. Or, c'est ça la leçon politique de la RDC. Ils viennent en politique pour chercher l'argent. Ce sont des gens pauvres qui ont besoin d'argent, qui viennent en politique pour avoir l'argent.
Merci. Or, merci beaucoup, docteur. Voilà, merci beaucoup, docteur Bintou. Oui, allez-y dans 10 secondes, oui.
Je termine, Péro. Excusez.
Allez-y, dans 10 secondes, parce qu'il y a aussi un autre auditeur pour
clôturer cette émission. Oui, je termine dans quelques secondes. Quant à la situation de la CENI, M. Labbé doit savoir qu'il organise les élections pour une catégorie de gens. Et tous ces gens-là ne vous font plus confiance. Il est normal de démissionner pour garder sa dignité. Il ne doit pas continuer pendant qu'on ne le fait plus confiance.
Voilà, merci beaucoup, docteur Bintou de Béni. Vous avez adressé clairement votre réquisitoire à la majorité, à l'opposition, à la CENI. Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités pour voir comment évoluer dans la consolidation de ces processus démocratiques. On termine rapidement avec vous, Mister. Vous êtes à Kikuit, dans la province de Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Kati, bonjour tous les invités.
Vous avez suivi les uns et les autres la démarche de l'opposition. Quel est votre point de vue?
Oui, je suis d'accord avec la démarche de l'opposition, mais ce que je devrais dire, c'est ceci. Les tentatives de modification de la Constitution par la majorité, nous constatons que la majorité n'a pas de ligne de conduite, soit le plan de développement pour ce pays-ci. Elle est perdue, comme le président Mobutu avait perdu, comment diriger le pays après le plan laissé par les Belges. C'est ainsi que la majorité veut nous distraire pour l'application de la Constitution. Alors, le deuxième, je voudrais dire pour le vote. Voter les députés provinciaux au suffrage indirect, c'est permettre la corruption au pays. Alors, comme les autorités politico-administratives de la majorité ne veulent pas parler de ça, alors ils pouvaient encore initier une loi qui autorise la corruption au pays. À part ça, la CENI devrait être apolitique. Pourquoi chaque année, nous voyons le président titulaire de la CENI et de la majorité et le vice-président de l'opposition? À part ça, le président de la CENI pouvait démissionner et laisser la place à la société civile et les représentants du peuple.
Oui, mais Mister, par rapport à la CENI, au niveau de la loi, c'est pas les politiques, hein, le président est issu de la société civile. On sait bien sûr qu'il y a la contestation. On se rappellera qu'en 2011, les gens ont pensé que le pasteur Ngoï Moulunda ne représentait pas la société civile parce qu'on l'accusait d'avoir des liens avec la majorité au pouvoir. Même actuellement, les gens reviennent encore dans ces débats pour dire ça ressemble à la société civile, mais au fond, ce n'est pas la société civile. Et c'est voilà même pourquoi eux, ils demandent la réqualification. Mais tout cela sort des lois qui ont été discuté et voté, promulgué, voté au Parlement par les mêmes politiciens. Merci beaucoup, Mister. Nous revenons à vous, professeur Jean-Pierre Mbouibois. On a suivi les uns et les autres. Les débats, il est vraiment intéressant. Chacun a la part des responsabilités. Docteur Bintou a défini clairement ce que la majorité doit faire pour essayer de consolider ces processus pendant cette période, ce que l'opposition doit faire, ce que la CENI doit faire. Mais on a quand même besoin de conclure ces débats aujourd'hui. Mais la matière autour de la préoccupation sur les processus, on peut en revenir autant des fois. Mais au-delà de tout ce qui a été dit par les auditeurs, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Bon, moi je crois qu'au-delà de tout ce qui a été dit par les auditeurs, ce que moi je retiens, c'est que les gens ne trouvent pas normal qu'on puisse se mettre à discuter pour modifier la Constitution. Et je vois aussi qu'il y a justement le fait que l'opposition travaille surtout pour son intérêt. C'est ça que moi je retiens. Bon, ce sont des points de vue, ce sont des déclarations de chacun. Hein. Il est libre d'assumer, il a des raisons. Hein. Mais nous ici, je crois que nous pouvons simplement encourager les uns les autres à travailler dans l'intérêt du pays. Mmh. Savoir que ça, c'est notre pays, chacun doit donner le meilleur de lui-même pour apporter sa petite pierre, n'est-ce pas, à l'édification de cet État, hein, faire que cet État soit au service de la population. Parce que c'est comme on dit, les politiciens, depuis les années 60, il y a un intervenant, ils travaillent que pour leurs intérêts. Ils regardent toujours la forme de l'État, le nombre de mandats. Parce que eux, ils doivent se retrouver. Mais la population ne se retrouve pas. Je crois que c'est vraiment un problème fondamental. Le pays doit travailler pour la population. Les Congolais ont droit à avoir une meilleure vie, améliorer leur bien-être. Et je pense que les politiciens doivent travailler aussi par rapport à cette préoccupation-là. Parce que c'est finalement la finalité de leur mission, de leur service. Et donc, si tout le monde, que ce soit ceux qui sont à l'opposition, que ce soit ceux qui sont à la majorité, pouvaient travailler en regardant un peu l'intérêt du pays, l'intérêt de la population, je crois qu'on tomberait facilement d'accord sur les choses essentielles.
Mais ici, nous divisons dans tout. Oui, si je me rappelle, on avait eu avec vous, à la veille des élections de 2011, c'était avec vous que nous avions fait le débat autour de faudrait-il, oui ou non, modifier la Constitution. Vous vous rappellerez, par rapport au chef de l'État qui devait être élu à un seul tour au lieu de deux tours comme c'était prévu. Et d'ailleurs, c'était aussi le souhait de la population qu'on ne puisse pas toucher parce que c'est encore une jeune démocratie, c'est une nouvelle Constitution qu'on la garde pour la consolider. Mais malheureusement, nous sommes allés, elle a été modifiée, on est parti là où on est parti. Mais on revient encore dans le même débat. Est-ce que c'est tous ces débats, tous ces soucis semblent vraiment préoccuper la classe politique pour qu'on arrive à consolider quand même cette démocratie avec cette constitution?
Malheureusement, je remarque que les Congolais s'en foutent, hein, c'est-à-dire surtout la classe politique. La classe politique regarde seulement ses intérêts comme on acquise. Il faut voir l'intérêt aussi du pays. Il faut faire que le pays, nous le consolidions, que nos textes, nous les renforcions, que la constitution soit respectée par tous. Merci. C'est important de travailler en faveur de l'édification de notre État.
Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Mbobo-Kalala, d'avoir accepté notre invitation. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous ont aidés à produire cette émission Parole aux auditeurs que vous allez retrouver en rediffusion à 9M sur 103.5 MHz ici à Kinshasa, mais à 20h03. Mais l'émission est aussi sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain à 10h03. Le code de famille révisé est en examen et au Parlement, plusieurs associations qui militent pour les droits de la femme exigent la abrogation de ces dispositifs de l'autorisation maritale pour la femme qui doit poser des actes juridiques. Quel regard portez-vous à ces débats? On se retrouve demain à 10h03. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Elle a été réalisée par Rose Nianfoura. Pierrot et la Meiji vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Berry Franklin Luchaka aussi a été en contact avec les auditeurs. On se retrouve demain. Au revoir.